À Chypre, tout commence par un coup de force fomenté par les colonels d'Athènes pour écarter, avec l'aide de la garde nationale, le chef de l'État, l'archevêque Makarios.
Ici la radiodiffusion de Chypre libre. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux. Il est en vie. C'est le président de Chypre, le seul qui ait été élu par le peuple. Nous supplions tous les peuples libres, toutes les démocraties du monde, tous les peuples civilisés, de nous aider à sauver la démocratie à Chypre. Peuple du monde, ne restez pas insensibles à notre situation. Nous vous supplions de nous soutenir dans notre lutte. Nous faisons appel à tous les gouvernements démocratiques, à tous les syndicats d'étudiants et de travailleurs, à vous tous, de vous joindre à nous, afin de nous aider à sauver la démocratie de Chypre. Longue vie à notre alliance. Nous serons sur les ondes jusqu'à la victoire finale de la démocratie. Vous allez maintenant entendre la voix du président de la République cypriote, l'archevêque Makarios.
I expect the whole world to condemn the perversion of the military regime in the state of Cyprus.
Le quart de la population est d'origine turque. Pour Ankara, le prétexte est trop bon. Le 20 juillet, à l'aube, les paras sont largués au nord de l'île. L'intervention se transforme bientôt en invasion. De part et d'autre, on s'accuse de massacre et l'archevêque Makarios en appelle à l'ONU.
I would like at the outset to express my warmest thanks to the members of the Security Council for the keen interest they have shown in the critical situation created in Cyprus after the coup, which was organized by the military regime of Greece and was put into effect by the Greek officers serving in and commanding the Cyprus National Guard.
Un cessez-le-feu précaire, des négociations qui avortent à Genève, n'empêcheront pas les Turcs d'occuper un mois plus tard 40% de l'île, ces terres les plus riches, la part du lion.
What has been happening in Cyprus since last Monday morning is a real tragedy.
Chypre, dont Ankara réclame le partage, deviendra-t-elle une nouvelle Irlande? C'est ce que l'avenir nous dira. Le fiasco des colonels grecs à Nicosie précipite leur chute à Athènes. Et le 23 juillet, Constantin Karamanlis, exilé à Paris, s'envole pour la Grèce.
Le président Karamanlis vous prie de comprendre la subtiliser la difficulté de sa place. En ce moment-ci, il ne peut faire aucune déclaration. Il ne doit parler de rien avant d'être rentré en Grèce pour voir comment la situation se trouve.
Είχαμε μια συνομιλία προφορική με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έρθει στη διάθεση μου αεροπλάνο και μου εξέφρασε ευχές του.
Tout à l'heure, le président de la République française, M. Giscard d'Estaing, a téléphoné. Il a souhaité bon voyage, a eu la gentillesse de mettre à sa disposition un avion français pour le transporter à Athènes.
Je vais partir après une demi-heure.
En hâte, Karamanlis remet en vigueur la constitution de 1952, fixe la date des premières élections libres depuis 10 ans et proclame l'amnistie pour tous les prisonniers politiques. De nombreux émigrés célèbres rentrent au pays. Parmi eux, Mikis Theodorakis. Et Mélina Mercouri.
C'est une immense émotion pour moi de parler du sol grec pour la première fois. La situation ici est assez complexe. Tout le monde ne croit pas que la libération enfin est venue. On est très attentif. Il y a des gens qui ont très peur et qui ont le regard vers Chypre qui en ce moment a des morts et on est au bord d'une guerre.
Candidate aux élections, Mélina Mercouri sera battue, tandis que triomphent partout les amis de M. Karamanlis. Bientôt, la Grèce dira non au retour du roi Constantin et oui à la République. Mouvement de contestation dans les prisons. Après Nîmes, Clairvaux, Caen, la centrale de Loos-les-Lilles est le théâtre d'une mutinerie. 450 détenus refusent de regagner leurs cellules et mettent le feu aux ateliers. Les trois quarts des bâtiments sont détruits. Les dégâts atteignent le milliard.
À la maison centrale de Los, il n'y a jamais eu de cage à poules. Ça a toujours été des cellules individuelles. Nous n'avons aucune initiative. Le détenu qui a tant soit peu de personnalité est considéré comme un meneur dangereux. On l'isole de ses camarades. En un mot, il faut être un mouton pour être bien en prison. Bien, tout est relatif, bien sûr. Mais alors, ce qui est pénible, ce que beaucoup n'admettent pas, c'est la bêtise, l'immoralité, si je peux employer le mot immoralité, la connerie des gardiens.
Qu'est-ce que vous demandez-vous en tant que gardien de prison ?
Que le détenu ne soit pas maître comme il l'est actuellement. Parce que le détenu, actuellement, il fait ce qu'il veut. Tout lui est possible.
Vous demandez à être plus nombreux aussi.
Au prix, au mois qu'un surveillant touche, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'amateurs.
Combien gagne un surveillant par mois ?
150 000.
1974, c'est aussi l'année Poulidor. Le coureur le plus populaire de France, qui, pour beaucoup, est le véritable vainqueur du Tour.
Ce Tour de France, comme les Tours de France précédents, a été sous l'emprise Eddy Merckx. Tout a tourné autour d'Eddy Merckx. Son équipe était plus forte qu'on pensait. Elle a contrôlé la course et les 20 tentatives d'échappée qu'il y a eu ont été vite annulées. Et certains coureurs ont peut-être hésité à se lancer dans la bagarre car avant tout, ce qui comptait pour eux, c'est d'aborder la montagne avec le minimum d'efforts et d'essayer de faire une place ou gagner une étape dans ce Tour de France.
7 ans après avoir été déchu de son titre pour refus de se battre au Vietnam, Mohamed Ali, ex Cassius Clay, redevient champion du monde le 30 octobre à Kinshasa. Ce qui veut dire « Je suis léger comme un papillon, mais je pique comme une guêpe ». La suite au prochain coup de gong. Depuis 2 ans, l'Amérique était malade du Watergate. Contre le président, la balance penche bientôt avec le verdict de la Cour suprême. Et le 8 août, Richard Nixon se résigne à démissionner.
From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Mais la justice veut poursuivre sa proie. Par souci d'apaisement, le nouveau président, Gerald Ford, amnistie son prédécesseur.
I, Gerald R. Ford, President of the United States, pursuant to the pardon power conferred upon me by Article 2, Section 2 of the Constitution, have granted and by these presents do grant a full, free, and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States which he, Richard Nixon, has committed or may have committed or taken part in during the period from July 20, 1969 through August 9, 1974.
Pour seconder le nouveau chef de l'exécutif et le remplacer à la vice-présidence, Nelson Rockefeller est nommé le 20 août. Il sera confirmé dans ses fonctions 4 mois plus tard.
I will therefore do my best to give a frank and open statement of my background, my association, my purpose, my finances.
Accident ou bien ironie de l'histoire, le président et le vice-président de la plus puissante démocratie du monde n'auront pas été désignés par le peuple. Comme Mistral ou Daudet, Marcel Pagnol avait su faire vivre dans le monde entier le petit peuple des cafés du port de Marseille. Avec lui, le théâtre de boulevard perd l'auteur de la plus célèbre partie de cartes du monde.
Tous les personnages vivent sur l'écran d'une vie pareille, et personne dans le public ne pourrait deviner quels sont les vivants, quels sont les morts. Ce ne sont pas des disparus, Leurs voix sonnent comme autrefois. Ils font de beaux éclats de rire et le public rit avec eux. Ces rôles qu'ils ont incarnés si longtemps pendant leur vie, ils les ont joués 100 fois plus souvent depuis leur mort. Ils exercent toujours leur art, ils font encore leur métier. C'est là que j'ai pu mesurer la reconnaissance que nous devons à l'art magique, qui ranime le génie éteint, qui rend sa jeunesse à l'amoureuse et qui garde à notre tendresse le sourire des amis perdus.
Le 4 septembre, Marcel Achard nous quitte à son tour. Sa silhouette, ses lunettes hublots, étaient aussi connues que son théâtre.
Je n'ai pas changé de point de vue depuis que j'ai écrit pour le théâtre. À mon avis, il n'y a que 3 choses qui sont possibles. C'est ou bien faire rire les gens, ce qui est le plus important, je crois, ou bien les faire pleurer, ou bien les passionner.
Dans d'ultimes convulsions, l'ORTF mourra, elle aussi, victime de l'une des premières réformes prises par le gouvernement. Mais cette agonie, offerte en spectacle à la France entière, suscite...
Recevez chez soi de Jacqueline Cora, la sérieuse, de Jacqueline Huet, la pouffeuse, et de Catherine, comme il se doit, toujours avec sa bague au doigt.
Après que la Compagnie Générale Transatlantique ait annoncé son intention de désarmer le France, une grève du personnel immobilise le paquebot, tandis que les passagers sont débarqués dans la bonne humeur.
Notre garçon de cabine, nous avons demandé qu'est-ce que c'est ça. Il a dit qu'il serait un rassemblement à 4 heures. Et après ça, il a dit, je ne peux dire rien, mais il serait une surprise.
Les réactions des officiers, justement, nous avons été très surpris. Ils sont avec l'équipage.
Non, par exemple. Mais non. Nous avons été bien
traités. Non, mais on a été très bien traités.
C'est le dernier voyage de la France. C'est un rêve.
C'était des applaudissements. Il y en a même qui ont donné de l'argent aux mécaniciens, estimant qu'ils l'avaient bien mérité.
Cette occupation, eh ben, ça peut durer 8 jours, 15 jours, 1 mois ou 2 mois.
En Éthiopie, la famine et la carence des dirigeants d'Addis Abeba vont hâter la chute du roi des rois à Haïlé Sélassie.
Je ne sais pas comme avant, comment je peux vous parler. Tout ça va bien avec des soldats, c'est fini. Ma situation et mon peuple, nous sommes en bon état. Mon peuple est tout à fait tranquille. Tout ça va bien comme avant.
Manifestations d'étudiants, meetings, grèves n'entameront pas l'optimisme du Négus. Pourtant, le 12 septembre, un comité militaire le dépose et l'élite de ses fidèles est fusillée. L'empereur lui-même est en sursis. L'assimilation du fascisme et du communisme n'est pas nouvelle. C'est pourtant le thème du discours que Michel Poniatowski fait au Sénat le 12 novembre à l'occasion d'une question orale.
On m'a demandé s'il y avait des différences entre le Parti communiste et le Parti socialiste, et s'il était permis d'escanter des divergences entre ces deux partis. J'ai répondu qu'à mon sens, ces divergences étaient inévitables un jour ou l'autre. Le Parti socialiste étant un parti démocrate et républicain, et le Parti communiste, un parti totalitaire à caractère fascisant. Je l'ai dit, je le maintiens et je le prouve. Jusqu'à présent, le Parti communiste est bien un parti totalitaire de caractère fascisant. L'avenir seul dira s'il est susceptible d'une autre évolution.
Aussitôt, Jacques Duclos s'élève, indigné contre les attaques du ministre de l'Intérieur.
Quels sont vos arrière-pensées ? Car lorsque j'associe vos déclarations à celles de M. Beauchamp, porte-parole de l'Élysée, et au singulier discours prononcé par M. le Premier ministre à la cérémonie commémorative de l'Assemblée consultative, j'ai l'impression que tous ces propos répondent à des préoccupations actuelles de votre politique. Vous parlez volontiers de libéralisme, mais vous avez votre actif, Folkemond. Vous avez l'ORTF. Vous avez Europe numéro 1 et d'autres actes arbitraires qui montrent votre visage totalitaire. Et ce qui est sûr, c'est que votre but est d'essayer d'affaiblir notre parti dans l'espoir de venir plus facilement à bout de l'union de la gauche.
Après le recul communiste aux élections partielles de septembre, l'unité de la gauche semble par ailleurs compromise et les attaques de Georges Marchais contre son partenaire socialiste se font de jour en jour plus virulentes.
Nous sommes en droit d'être inquiets quand nous voyons que l'on tend à passer de plus en plus sous silence le programme commun, quand l'on voit que ce programme commun subit des attaques violentes d'hommes comme Rocard, Chapuis et d'autres sans que la riposte nécessaire soit donnée. Pour ce qui concerne les problèmes touchant à l'émulation avec nos partenaires de la gauche, nous ne craignons nullement cette émulation. Il faut, comme nous le sommes nous-mêmes, que nos partenaires soient animés d'une préoccupation unique, assurer le triomphe du programme commun. Mais le problème n'est pas que l'un des alliés se renforce au détriment de l'autre. Le problème est que tout le monde gagne au préjudice de la droite. Voilà le mot d'ordre.
Quant à François Mitterrand, il s'efforce de faire taire la polémique.
Certains ont prononcé le mot crise. C'est une façon de, oui, d'égarer l'opinion publique. Il n'y a pas de crise au terme exact. Et au-delà de cette divergence d'expression, pouvait apparaître en effet une divergence d'explication. Et peut-être finalement une divergence d'orientation.
Novembre 1974. Les prix littéraires sont au rendez-vous. 178 pages en gros caractères, 2 heures de lecture. La Dentelière de Pascal Lainé, le Goncourt 74, bat les records de la brièveté.
Un des intérêts de ce prix, c'est que c'est quelque chose de très souple, d'éclectique, dont la vocation est de découvrir quelque chose, un auteur. Et précisément, qui doit se montrer le plus ouvert possible.
Suisse de naissance, parisien d'adoption, Georges Borgeot a mis 10 ans pour écrire Le Voyage de l'étranger. Il remporte le prix Théophraste Renaudot.
C'est tellement miraculeux ce qui m'arrive. Il faut croire que je sais pas, il faut croire qu'on aime ce que je fais. Et ce prix, c'est vraiment étonnant. Enfin, c'est merveilleux. J'ai lu beaucoup quand même dans ma jeunesse. J'ai été formé par de grands lyriques, par les poètes, n'est-ce pas? Donc. On n'est pas innocent, il n'y a pas un écrivain tout neuf. On est le résultat de quelque chose. Mais je crois que je me suis libéré de mes influences.
La diffusion à l'étranger d'une note officielle du général Stellin plaidant sans ambiguïté en faveur d'avions américains en concurrence avec le Mirage F1 provoque de vives réactions dans le monde politique français.
Dans ce document, non seulement l'industrie aéronautique française, mais l'industrie française dans son ensemble sont attaquées. Heureusement, ses réalisations et son efficacité plaident pour elles. Quant à moi, et sur le plan politique, je dirais que les écrits de M. Stellin porteront un coup sévère à nos intérêts nationaux.
Et je voulais, par cette note, apporter à l'industrie aéronautique française du travail que malheureusement elle n'a pas en ce moment. Et je voulais lui apporter ce travail, et je veux toujours le faire, par l'intermédiaire de la coopération avec les États-Unis.
À 2 reprises, le nouveau président avait manifesté son refus de se laisser enfermer dans les traditions. À la cérémonie du 11 novembre, le rythme de la nouvelle Marseillaise ne rallie pas tous les suffrages.
وإرهابا فاضطرت الشعوب المضطهدة إلى التصدي له وكان تصديها عادلا ومشروعا.
Tandis qu'au Proche-Orient, la paix s'éloigne chaque jour davantage devant une situation diplomatique bloquée, l'OLP marque des points sur l'échiquier international.
على انتصار قضاياها العادلة ونيلها حقها في تقرير المصير.
Consacré à Rabat, représentant exclusif du peuple palestinien, Yasser Arafat vient en novembre plaider devant l'ONU la cause d'une Palestine où Arabes, Juifs et Chrétiens pourraient, selon lui, vivre en harmonie. من إحلال السلام على أرضها وتحقيق أهدافها. Pourtant, sur la terre d'Israël, les terroristes du Fatah, venus du Liban, multiplient les attentats et les massacres. À Mahalot, à Kiryat Shmona, c'est la peur, la désolation, la colère.
Moi-même, j'ai peur de dormir. Je ne dors pas toute la nuit, je suis dans les fenêtres. Et le matin, je dors. Au lieu que je fais mon travail, je dors. Mes enfants, ils ne veulent pas aller à l'école du tout. Ils ne sortent pas dehors, ils sont à la maison, ils sont enfermés.
Nous tâchons de vivre une vie normale et nous prenons les précautions que nous jugeons nécessaires. La garde sur les enfants est un peu plus sérieuse. Bon, ils n'ont pas peur. La peur chez ces enfants est une chose presque inconnue. Ou plutôt, on peut dire qu'ils s'habituent très vite à la peur et ça n'a pas de grand effet sur eux. Mais s'il y a eu un massacre d'enfants en Israël, ils demandent que nous fassions vengeance. Et la grande difficulté des adultes ici, c'est de leur faire comprendre que ce que nous faisons ici, ce n'est pas une vengeance.
Le 26 novembre, dans une atmosphère de fatalisme et de résignation, s'ouvre le débat parlementaire sur le texte de loi relatif à l'avortement. Nul ne pourra dire que les femmes en sont absentes, puisque c'est à Simone Veil, ministre de la Santé, qui est revenue la charge de présenter le projet.
Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble.
188 députés qui siègent dans les groupes de la majorité désapprouvent avec Michel Debray un texte qui tente à faire du crime d'hier un acte médical ordinaire.
S'il est un membre du gouvernement dont j'eusse souhaité approuver et soutenir les projets, c'est bien vous, Madame le Ministre. Il faut que l'affaire que nous débattons soit bien grave et touche à l'essentiel pour que je me lève pour vous contredire et souhaiter que le texte proposé ne soit pas voté. Dans cette grande affaire, mes chers collègues, ce qui domine, c'est l'incertitude. Cette incertitude ne nous est pas particulière. Elle touche bien des pays. Elle ne touche pas certains autres, notamment les pays d'islam, j'aurai à en reparler. Mais en Europe, en Amérique, en Asie même, l'opinion et les dirigeants sont troublés. Dans les pays qui ont maintenu des contraintes, un mouvement incite les dirigeants à les lever. Dans les pays qui ont supprimé les contraintes, un mouvement incite les dirigeants à les rétablir au moins partiellement.
Grâce au concours de la gauche unanime, le projet sera adopté par 284 voix contre 189. Le 12 décembre, le président français entreprend un voyage en Guadeloupe et Martinique. Le roi de la bonne humeur, Henri Salvador, est venu saluer Valéry Giscard d'Estaing avant son départ.
Avant que vous ne partiez pour les Antilles, permettez-moi, au nom de tous mes compatriotes, de vous souhaiter la bienvenue avant la lettre sur le sol des Antilles. Dans quelques heures, par le chaleureux accueil qui vous sera réservé, vous entendrez battre le deuxième cœur de la France.
Bon, merci d'être venu. D'être venu ce matin, vous avez encore 5 minutes pour vous décider, parce que je suis tout prêt à vous emmener aux Antilles.
Ah, Vous êtes très gentil, c'est le président.
Voilà, si vous ne venez pas, je dirai bonjour au pays de votre part.
Une baignade avec le président Ford, un compromis avec l'Amérique méfiante, c'est ce qu'on retiendra du voyage du président français. À la mi-décembre, l'UDR, d'humeur frondeuse, semble vouloir prendre ses distances vis-à-vis du gouvernement. Sanguinetti, le secrétaire général, est au centre des spéculations.
Une mission m'a été confiée pour plusieurs années. Bien entendu, je remettrai le titre en jeu à l'échéance prévue, qui sera probablement dans 2 mois. Mais je ne suis pas homme à abandonner une mission sans combat.
Le lendemain, toutefois, le ton n'est plus le même.
Je ne dois pas être dans ce mouvement que je sers depuis toujours, être un facteur de division et de contestation. C'est pour cela que j'ai remis aujourd'hui ma démission.
Jacques Chirac, qui ne veut pas prendre le risque de voir le principal parti de la majorité dirigé par quelqu'un qui lui serait hostile, décide de prendre personnellement en main les destinées de l'UDR.
Lorsque j'ai été nommé Premier ministre, le premier acte que j'ai fait a été de réunir autour de moi ceux qui avaient eu dans le passé les responsabilités les plus éminentes de notre mouvement. Et je leur ai dit à l'époque que mon ambition et mon intention étaient, contre vents et marées, d'assurer le maintien de nos objectifs fondamentaux et de faire en sorte que l'avenir de la France soit conduit sur des voies qui étaient celles que nous avait indiquées le général de Gaulle et que nous n'avions pas quittées.
Jacques Chaban-Delmas et Olivier Guichard, deux barons du gaullisme, ne peuvent cacher leur amertume.
Je n'ai pas compris le coup de théâtre de ce matin. Et si j'ai parlé d'un coup de force, c'est parce que ce comité central de ce matin, il lui était demandé de prendre une décision, d'élire comme secrétaire général le Premier ministre, qui était exactement à l'opposé de la directive de politique générale que le comité central d'octobre avait prise, qui donnait l'orientation que le mouvement devait suivre et qui comportait le rétablissement de la vigilance, le soutien au gouvernement dans la mesure où les options fondamentales étaient respectées et, troisièmement, ne pas se confondre avec l'exercice du pouvoir, car on avait mesuré le mal que nous avait fait la fameuse expression « l'État UDR ».
Votre décision, il faut que vous compreniez qu'elle va à l'encontre des principes que nous défendons depuis 30 ans. C'est nous, et vous avec nous, qui avons demandé à Georges Pompidou d'exiger du président des Républicains indépendants qu'il quitte son poste, parce qu'il avait des responsabilités importantes dans le gouvernement. Quel va être demain le dialogue entre le gouvernement et le mouvement, voulez-vous me le dire ?
Le vendredi 28 décembre à Liévin. Un coup de grisou tue 42 mineurs.
On allait chercher du matériel. On était projeté, quoi, exactement par ce nuage, quoi, de. Comme un coup de grisou, quoi, ni plus ni moins, quoi. De poussière et de presse, c'est pas tout, quoi. Ça fait comme une boule. On était dans le noir, on prenait feu, exactement. Nos abus prenaient feu aussi. Comment ça se déroule si vite.
C'est le deuil et la consternation qui s'abat sur les corons. La mine prend son visage des jours de catastrophe.
Pierre, il est mort, Pierre.
Parole.
la voix des 42 victimes de ce drame qui sont allées en un instant à la rencontre de Dieu. Je veux être aussi la voix de ceux qui pleurent aujourd'hui, les épouses, les enfants, les mères de ceux qui sont morts. Je veux être aussi la voix des camarades et des amis, la voix des travailleurs de la mine dont la tâche est si rude et, nous ne le savons que trop aujourd'hui, pleine de dangers quotidiennement affrontés.
Noël 1974, c'est aussi le début de l'année sainte. Et le 25 décembre, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, Paul VI procède à l'ouverture symbolique de la porte sacrée.
Ex porta Domini, ius intrabunt in eum. Intruibo in domum tuum, Domine.
Adorabo a te, sanctum.
Année de tensions internationales grandissantes, 1974 a été cruelle à de nombreux chefs d'État. Elle s'achève dans la grisaille, mais 1975 est déjà là.